On a découvert Lucie et on est fan. C'est deux check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendue enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life, choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026. Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de 1000%. Je suis toujours accompagné de Vincent de la team 1000%. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Maël, alias Doc Athlétique sur les réseaux. Ça va, Maël ?
Ben, écoute, ça va, Pierre, enchanté, bonjour à tous. Puis, ravi de pouvoir faire ce petit podcast avec vous, de discuter tranquillement. J'ai hâte.
Ouais, donc Maël, t'es coach, mais t'es aussi interne en médecine, en médecine physique et réadaptation. C'est quoi un peu ta semaine type, comme ça on comprend un peu qui tu es par ça.
Ouais. Oui, comme tu le dis, Pierre, moi j'ai un peu cette double casquette. Grosso modo, ma semaine, c'est il y a 5 jours dans la semaine qui se ressemblent. C'est assez simple, c'est-à-dire que de 9h à 19h, grosso 19h, 18h30, 19h, je suis à la clinique, donc ou en hôpital, et je suis interne du coup dans ce lieu de stage. Donc je fais de la médecine physique et de la réadaptation. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler plus en détail de cette spécialité. Et je prends en charge des patients, j'ai un service avec des patients à charge. On a une petite pause du midi qui est plus ou moins rapide suivant la charge de travail. Et puis après, on reprend le relais. Ça peut être faire des visites de patients, aller les voir en chambre, aller les voir sur plateau. Donc, il y a tout ce modèle-là. Et puis après, moi, quand je sors de l'hôpital, c'est là où je mets ma casquette de coach. Je pose la blouse et c'est là où, pour l'instant, j'ai une solution en ligne parce que la solution physique est très chronophage pour moi dans mon internat. Et pour ceux qui connaissent pas l'internat, c'est une partie de la médecine où on est vraiment du coup à l'hôpital en tant que médecin en formation, bébé médecin, bébé docteur, on peut appeler ça comme on veut.
T'es en 8e année là, c'est ça ?
Je suis en 8e année, c'est ça. Je commence ma 8e année et ma 2e année d'internat du coup. Et donc voilà, j'enfile ma casquette de coach. Alors je gère pas mal. Moi j'ai une petite équipe de coach en ligne où on coach des femmes en fonction de leurs problématiques. Je coach aussi des hommes et puis je m'entraîne aussi en tant que, si je puis le dire comme ça, athlète, bodybuilder. J'ai fait une compète il y a pas longtemps, donc voilà un petit peu ma journée. Puis après de la création de contenu et au dodo.
Ça fait une grosse journée ça.
Ça fait des grosses journées. Je pense que mes cernes me trahissent un peu sur ce début de semaine.
Dès lundi. Voilà.
Ouais. Et alors, médecin MPR, c'est un peu un Pokémon rare. Tu vois, je regardais les chiffres. Il y a 200 000 médecins en France environ et il y a 2400 MPR. Autant à peu près que des rhumatos. N'importe qui, les gens, ils connaissent bien les rhumatologues, médecins du sport. Bon, voilà. Médecins MPR, la plupart du temps, quand j'oriente des patients vers des médecins MPR, ils savent pas ce que c'est. Comment est-ce que tu définis ta spécialité ?
Moi, pour moi, la médecine de la MPR, c'est la particularité d'être une spécialité assez polyvalente en réalité. Et moi, je la vois surtout comme la prise en charge d'un patient entre l'événement aigu et la remise en fait dans le chemin de la vie, avec le plus de facilité possible. C'est-à-dire que si on peut faire récupérer au patient toutes ses capacités, on le fait, ou sinon on va donner des adaptations pour qu'il puisse vivre sa vie de la manière la plus normale possible. Donc ça, pour moi, c'est un peu notre rôle d'MPR, et ça peut se calquer dans le domaine de la neurologie, ça peut se calquer dans le domaine de l'orthopédie, ça peut se calquer même dans le domaine de la cardiologie, voire même de l'oncologie. J'ai déjà entendu ça aussi, je ne l'ai jamais vu, mais je sais que ça existe. Donc voilà, nous, notre rôle, c'est à partir d'un... Après la prise en charge aiguë d'un événement, venir réhabiliter un patient dans sa vie.
Oui, il faut peut-être préciser que MPR, c'est quand même rééducateur. Donc, tu es un médecin de la rééducation.
Ouais, c'est ça. Bah, finalement, c'est oui, c'est de la rééducation. Et en fait, ça va concerner différents systèmes suivant en fait bah, le point de départ.
Tu vois, ouais, on est tous les deux kinés. Pierre est ostéo, moi prépa physique. Et je crois que j'ai jamais travaillé avec un médecin rééducateur. Enfin, à part dans mes stages, mais en libéral,
Pas
tu
d'effort,
vois.
Vincent. Tu fais pas d'effort là.
Non, mais je dis la vérité. Et non, mais en vrai,
Ah,
je
j'ai des
travaille avec
Pokémon rares.
des
Pokémon
médecins du
rares.
sport. Est-ce que en libéral, vous êtes autorisé à exercer en libéral ou c'est vraiment un métier, une spécialité qui se retrouve dans les centres de rééducation, dans les centres hospitaliers?
En général, c'est beaucoup plus dans les centres de rééducation hospitaliers, ça c'est sûr. Il y a des médecins MPR en libéral, mais en général, ils font pas que ça aussi. Et c'est souvent ouais rattaché plutôt à une hospitalisation de jour. Ça, il y en a aussi pas mal aussi d'hospitalisation de jour, puis après un peu de consultation libérale, je sais pas en fin de journée ou des choses comme ça. Donc, mais la grosse partie, ça reste quand même établissement de rééduc et hôpital.
C'est une vraie spécialité, à la
Ouais.
différence de médecin du sport, où là, ça va être plus un DEU que tu vas passer après ton diplôme de médecin généraliste.
C'est ça, oui, c'est vraiment une vraie spécialité, hein. Il y a tout un cursus, il y a toute une maquette, c'est comme ça on appelle ça comme ça en internat. C'est-à-dire que chaque spécialité a un nombre d'années, donc en général, les spécialités médicales, c'est plus 4 ans, chirurgicales, c'est plus 6 ans, je crois qu'il y a l'anesthéria, c'est entre les deux, je crois que c'est 5 ans, si je dis pas de bêtises. Et donc, chaque spécialité a une maquette, et la MPR a sa propre maquette aussi, on doit faire des stages en MPR, mais aussi en rhumato, en neuro, des stages libres. Donc ouais, c'est une spécialité à part entière, ouais.
Ce qui ne veut pas dire que la médecine du sport n'est pas une spécialité, mais ce n'est pas un titre comme l'est le médecin MPR ou le rhumatologue.
C'est ça, ouais. C'est ça, c'est bon, je le dirais grossièrement, c'est une sorte de surspécialité, peut-être,
Oui.
pour le dire comme ça. Simplement, donc
Et bon, on sait tous que l'internat, c'est encore un concours très difficile. Mais pourquoi tu as choisi cette spécialité? Il y a eu un stage, une expérience ou c'est une place que tu as eue
Alors, il y a eu plusieurs choses. Déjà, il y a eu un stage que j'ai fait en MPR à Paris avec. Alors, c'est une médecin qui est aussi sur les réseaux d'ailleurs. Elle s'appelle Docteur Tchaikovsky. Très, très, très,
Un
très, très, très
médecin du
sympa.
sport.
Et voilà, médecine du sport et MPR. Et en fait, moi, il faut savoir qu'à la base, j'ai changé pas mal de fois mon souhait de spé. C'était quand même des spé qui étaient très branchés en vrai, qu'on le veuille ou non, plus ou moins loin du sport. Parce que c'était soit Medjay, soit cardio, soit chirortho, et puis après MPR. Donc ça c'est, moi je me voyais pas faire une spécialité où j'avais pas touché un petit peu de sport, pas que ça, mais au moins un petit peu quoi. Je me voyais plus dans cet ordre-là. Et en fait la MPR je l'ai découvert vraiment en fin de sixième année. Et du coup j'ai fait un stage attends, ouais c'est ça. J'ai fait un stage du coup en fin de sixième année pour voir si cette spécialité me plaisait. J'en entendais parler, mais en vrai je m'étais jamais vraiment intéressé à l'aspect en question. Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas connue. Et en fait, ce qui m'importait, c'était juste de réussir mes examens. Donc, je ne recherchais pas trop. Et franchement, bah, ça m'a vachement plu. Et je trouvais que c'était le parfait compromis entre l'aspect orthopédique qu'on rencontre en chirurgie et généraliste. À un moment donné, je pensais à généraliste, mais je ne me voyais pas faire généraliste. Et je voulais quelque chose où je puisse quand même avoir un domaine d'expertise. Bon, généraliste, c'est quand même son expertise, c'est de justement couvrir, si vous voulez, tous les systèmes. Mais parce que généraliste, c'est devenu une spé. Mais chirurgie orthopédique, d'un autre côté, je trouvais que le volume était trop important par rapport à mes souhaits aussi de passion et des choix personnels, justement comme le coaching sportif. Et je me voyais pas faire coach sportif en étant interne en chirurgie orthopédique pour le coup. Donc en fait, quand j'ai vraiment compris ce qu'était la MPR, je me suis dit, mais en fait, enfin, j'ai envie de faire coach sportif qui fait ma vie, être athlète, et la MPR, c'est vraiment l'aspect, par définition, qui m'était, en tout cas pour moi, qui m'était destinée. Et bah, là, ça fait un an et demi que j'y suis. Il n'y a pas un moment où je regrette de ne pas avoir pris MPR, quoi.
Sur, est-ce que tu pourrais, par exemple, dans le champ musculo-squelettique, pour que les gens puissent comprendre un peu, les types de patients qui pourraient être amenés à voir un médecin MPR versus un rhumatologue. Comment est-ce que tu vois ces deux métiers forcément qui vont voir des patients à peu près les mêmes typologies de patients, mais comment est-ce que tu vois les différences entre ces deux spécialités?
Pour déjà répondre à la première partie, quel type de patient serait plus susceptible de voir un MPR qu'un rhumato? Moi, je vois pas mal, on voyait pas mal de patients juste vraiment avant la pose de prothèse, que ça soit de genoux, de hanches ou de choses comme ça. Ça revenait pas mal. C'était souvent, on commençait par les infiltrer, on finissait par faire une prothèse et ensuite ils venaient en rééduque. En fait, c'était souvent ce schéma-là. Donc ils venaient en consultation libérale, c'était infiltration, c'était souvent comme ça. Et après, bah, ils venaient en HDJ, donc en parallèle des consultes du coup, et ils
Hôpital de
étaient pris en
jour.
charge en hospitalisation de jour, pardon. Et après, bah, ils étaient pris en charge bah, post-pose de prothèse, pose de genou, de hanche, etc. Il y a plutôt cet aspect-là. Mine de rien, je trouve il y a aussi, si on parle qu'en consultation de ce que moi j'ai fait, il y a quand même un versant un petit peu sportif, je trouve. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a un profil assez sportif de patients. Alors après, c'était biaisé parce que j'étais sur une terre de rugby aussi, il faut le dire. Donc j'ai eu quand même pas mal de patients qui venaient pour une épaule. Et en fait, comme le généraliste se sentait pas de gérer ça, il renvoyait sur le MPR qui avait du coup cette expertise musculo-squelettique que le généraliste n'avait pas. Et supposé qu'il y ait une infiltration ou quoi à faire, bah, du coup, le MPR s'en chargeait. Donc, j'avais aussi eu pas mal de ce type, ce profil de patient-là. Et pour parler que de l'ortho. Et puis après aussi pas mal de. Après, c'était plus dans des admissions hospitalisation de jour où, du coup, bah, là, on avait aussi pas mal de patients neuro, un peu en rupture de parcours, qui revenaient, du coup, nous voir après, par exemple, une hospitalisation complète au CHU ou dans les hôpitaux, des choses comme ça. Voilà.
Et comment tu organises le travail? Je suppose que tu as une équipe de kiné, d'ergo,
Ouais,
et
ouais,
il y
ouais.
a tout un travail pluridisciplinaire sur tes patients.
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Ouais, grave. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc que j'avais pas mesuré l'ampleur de la chose, mais en fait, un MPR n'existe pas sans des paramédicaux, pour moi, à ses côtés, quoi. Même en libéral, avoir je pense, un carnet de contact, ça me paraît être la base du fonctionnement d'un MPR. Et donc, ouais, pour expliquer aux gens, si vous voulez, la prise en charge du patient s'articule entre l'expertise médicale du MPR, l'expertise kiné. Parfois, suivant les systèmes atteints, on a l'expertise ergothérapie qui va venir sur le membre sup, la gestion voilà, de l'organisation à domicile ou des choses comme ça. On a la psychomotricité, l'orthophonie dans les troubles de déglutition. Donc vraiment, en fait, chaque compartiment dans la rééducation et dans la remise en fait de la vie, on va dire normale, entre guillemets, d'un patient, bah, chaque compartiment est géré par un professionnel médical ou paramédical. Donc, ouais, la pluridisciplinarité, je sais pas si je le dis correctement, mais elle est folle et franchement, elle est hyper intéressante. Hein. Personnellement, je kiffe.
Magnifique.
Parce que tu vois, dans notre expérience, enfin, moi je rêve d'un système de santé où on se régale, tu vois, et on est cloisonné un peu. Alors, je parle
Agréable.
vraiment en libéral parce que c'est mon expérience, mais se créer un réseau, eh ben, il faut vraiment bah, essayer d'apprendre à connaître des médecins. Toi, ce que tu connais en centre, c'est quelque chose qui est déjà défini. Voilà, et vous avez déjà votre façon de travailler tous ensemble. Moi, c'est pas ce que je retrouve et je trouve ça dommage en fait. En t'écoutant, je me dis, j'aimerais bien avoir un médecin, tu vois, qui a toutes les rééducations en tête, qui chapeaute un petit peu tout ça et que ce que toi tu retrouves en centre hospitalier ou de rééducation, bah, ça se retrouve aussi à l'extérieur, quoi.
Bah, c'est ça, c'est vrai qu'en centre, on a cette chance en fait de pouvoir littéralement aussi parler directement avec le paramédical s'il y a un souci. Ce qui fait que le bureau est à côté ou le plateau est pas loin, enfin pas plus tard que tout à l'heure. J'ai un kiné qui m'a demandé une presse pour du matériel, ça n'a pas duré plus de 5 minutes, quoi. Donc c'est vrai que en libéral ou en ville, ou alors sur des plus petites structures, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Il y en a qui le font, mais du coup c'est vrai que la communication interdiscipline est parfois, je trouve, compliquée, et je pensais pas autant, en fait. Je pensais pas autant. Et c'est vrai que c'est un souci parce que des fois on a même des professionnels de santé du coup qui sont même pas au courant que bah, possiblement le patient il pourrait aller 1000 fois mieux s'il avait une prise en charge paramètre sur un système concerné. Mais après moi je suis MPR en structure donc c'est facile à dire finalement. J'ai accès à tout quoi. Mais c'est je te rejoins Vincent, c'est pas c'est, je pense que c'est ignorer d'énormément de spé quoi hors de la MPR. Même le cardio, s'il veut à un moment donné rebasculer, ben en fait, c'est pas. Et ça, des fois, c'est vrai, je pense que ça peut ralentir des prises en charge.
Je pense qu'il y a aussi, on se rend par compte de l'intérêt que ça pourrait avoir, qui est ce MPR qui vient à chaque fois dans les pathologies. Moi, je pense à la plupart des patients que je vois, parce que j'ai une activité que d'ostéo maintenant, sur les troubles musculo-squelettiques, et on parlait de ce traitement médical bien conduit. Et tu sais, cette trame, tu sais, tu parlais du patient qui en venait à l'infiltration, mais souvent, ces patients-là, ça traîne beaucoup.
Ah oui,
Alors,
c'est vrai.
et souvent ils osent pas, enfin, ou ils sont pas forcément bien aiguillés, ça traîne beaucoup, tu sais, et c'est quand ils sont complètement en échec et qu'ils sont en aigu, qu'ils en viennent à faire cette infiltration. Tu dis, mais en fait, vous auriez fait une injection d'acide hyaluronique, ou de corticoïde bien menée, parce que c'est quand même un acte médical et il y a une réflexion derrière. Ça aurait fait vraiment sens à un moment donné, mais là maintenant,
Oui. Ah oui, on en vient souvent à des moments où c'est trop tard, ou alors même on aurait peut-être pu s'épargner une infiltration s'il y avait une bonne prévention avant, ou alors toutes les plaintes que certains patients peuvent avoir vis-à-vis de la diminution de leur autonomie ou ouais, de leur capacité, bah, ne serait-ce qu'à pouvoir marcher, enfin, pour prendre l'exemple d'infiltration du genou, un cas classique, je pense. Mais oui, clairement, ouais, ça c'est. Mais bon, je pense que c'est ouais, a changé un peu, ouais.
Tu peux
Ouais,
nous
je
parler de...
t'invite à écouter l'épisode de Pierre parce qu'on s'est auto-interrogé sur 1000%. C'est la première fois qu'on prenait la parole. Et donc, Pierre a travaillé avec des chirurgiens orthopédiques et spécialistes du rachis. Et donc, il expliquait, tu vois, tout ce triage, toute l'expertise qu'il peut avoir. Et c'est vrai qu'un médecin comme toi ou comme d'autres hein, pourrait mettre du lien et mettre de la cohérence aussi dans le parcours de soins de nos patients.
Pour faire suite à ce que tu dis, Vincent, c'est d'ailleurs le problème qu'avaient les chirurgiens, c'est que nous, on était une équipe de kinés spécialisée, et il y avait les chirurgiens spécialisés qui faisaient que du dos. Et le problème, c'était qu'il manquait terriblement de médecins MPR, ils n'arrivaient pas à en trouver, pour faire le lien, qui est un lien médical, et pour leur éviter, en fait, de faire ce travail, parce qu'ils en venaient à faire un travail de médecin MPR et de faire des prescriptions de rééducation pour des patients. Parce qu'en fait, on était trop tôt dans le parcours de soins. Alors, soit l'infiltration n'était pas indiquée, ou même quand elle était indiquée, cette prescription-là aurait pu être faite par un médecin MPR. Parce que le chir, il est là pour faire de la chirurgie ou pour dire qu'il ne faut pas faire de chirurgie. Mais c'est quand même dommage de monopoliser du temps d'un chirurgien pour dire aux gens
Ah bah
qu'il faut
oui.
qu'ils fassent de la rééduque. Eh bien, non, mais c'est ce qu'ils font. C'est ça le problème. C'est que ça leur fait perdre beaucoup de temps de consulte, et ça allonge leur délai pour faire des consultations. Et en fait, il y a des pertes de chance pour les patients qui, au lieu de se faire opérer en un mois, parce qu'il y a une vraie problématique, par exemple, d'un canal lombaire étroit et qui est en train de se dégrader, eh bien, le truc traîne pendant 6 mois
Mais
et voilà.
c'est quoi le. En vrai, nous, ça nous régalerait de t'avoir, Maël. Voilà, je te le dis. Et pourquoi il n'y a pas de médecins rééducateurs qui sont vraiment dans le tissu des professionnels de santé? Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a pas assez de formés. C'est
Bah
quoi les.
déjà, alors, je pense que je suis peut-être encore un peu trop novice dans le game de la santé, je dirais, mais bon, on n'est pas beaucoup, déjà, faut le dire, on n'est pas beaucoup, on n'est pas connu. Et c'est déjà tout le sujet là de ce début depuis qu'on parle, c'est que là, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'apprendre que la MPR existait. Alors peut-être qu'après, vous avez une audience qui est concernée, mais je suis sûr que même avec ça, il y en a encore qui l'apprennent. Et donc, Je pense déjà ça va passer par là. C'est vraiment que les gens comprennent déjà qu'il y a une composante rééducative qui correspond à une spécialité. Et puis au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, on a des patients qui vieillissent de plus en plus, qui ont des atteintes chroniques de plus en plus importantes, qui vont justement avoir besoin de ce relais entre le moment où je me fais prendre en charge dans l'aigu et le moment où je dois réintégrer mon quotidien. Et ce relais, justement, pour moi, comme vous l'avez dit aussi sur l'exemple du chirurgien où il manquait d'MPR, c'est notre rôle à nous. Mais de ma petite expérience d'interne, parce que du coup, j'ai pas en réalité, j'ai pas encore un pied de professionnel de santé vraiment appuyé dans ce système. Moi, je suis encore en formation et tout ça, mais de ce que j'en vois, je pense que c'est notre nombre, la notoriété de notre spé qui doit nous faire défaut. Le fait qu'on reste qu'en structure universitaire aussi, ça ne s'extend pas beaucoup d'autres choses que les structures universitaires ou alors les grosses structures privées de rééducation comme celle où je suis actuellement, Corian. Et après, y a très peu, je pense, de prise d'initiative aussi de spécialistes qui veulent monter un intermédiaire comme une équivalent d'une maison en santé, mais d'une maison en rééducation, par exemple. Peut-être que je me trompe par ignorance aussi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est le cas sur 2000 professionnels MPR à l'échelle de la France. Je dirais qu'en termes de chiffres, on est peut-être manquant.
Oui, parce que tu serais le médecin du relais, le médecin du lien, en fait.
Je pense,
un médecin généraliste, est-ce qu'il peut devenir MPR? Est-ce qu'il y a des DU de rééducateurs?
Oui, il y en a. Dans nos cours, déjà dans notre formation DES, donc on a des médecins généralistes qui, dans leur DU, sont des fois intégrés en fait à nos cours de spécialité. Et pour devenir, alors je crois que c'est le DU de rééducation, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose comme ça, mais en tout cas, oui, le médecin généraliste, à un moment donné, peut avoir l'équivalent d'MPR. J'en ai vu en formation.
Il peut avoir l'équivalence, il peut être étiqueté MPR en faisant un DU.
Il peut, en tout cas, ouais, il a la possibilité de faire certains actes d'MPR. Alors, après, peut-être que je raccourcis, pardon.
Oui, en fait, c'est pas pareil qu'un droit de remords. Ouais. Tu peux changer de spé. Ouais. Il peut faire des infiltrations.
La plupart qui font un DU, en fait, ils vont faire un DU de médecin du sport.
Oui.
Pour. Attirer ça, toi, en fait, t'es un rééducateur, t'es pas uniquement dans la pratique sportive.
Non,
tu vas avoir des pathologies complètement diverses et variées, quoi.
Ah bien sûr. C'est vrai que vu qu'on parle de système musculo-squelettique, il y a aussi la composante neuro aussi, qui est très présente en MPR. Là, on a parlé pas mal d'ortho, mais la composante neuro, franchement, je pense même que, en tout cas, d'un point de vue universitaire, elle est, en tout cas, là où je suis à Bordeaux, plus présente que l'ortho. Mais effectivement, c'est vrai, on se dit musculo-squelettique, donc sport. En réalité, non. Donc, évidemment, après, il y a une composante d'activité physique qui est, je pense, inéluctablement liée à la prise en charge de nos patients. Ça, c'est clair. Mais oui, MPR n'est pas égal à médecine du sport. Ouais.
Est-ce que tu pourrais nous orienter sur les différents types d'un, tu vois, pour que les gens puissent comprendre, sur les infiltrations, les indications, si on en a parlé un peu brièvement juste avant, pour qui, pourquoi, dans quel cas de figure, est-ce qu'un MPR, est-ce qu'il pourrait être amené à faire ça, ou finalement un médecin du sport fait ce genre aussi d'intervention?
Ouais, alors moi de ce que j'ai vu depuis que je suis en MPR, en général il y a les infiltrations d'acide hyaluronique, ça j'ai eu l'occasion d'en faire, il y a des infiltrations faites de différents types de produits suivant le motif en fait de consultation du patient. Quand on a des pathologies qui flirtent avec l'inflammatoire, on sera plutôt dans de l'infiltration par exemple de corticoïdes, dans le but de diminuer un petit peu plus d'un point de vue symptomatique pour faire reculer une échéance des fois que simplement traiter l'articulation en elle-même. Et on a aussi l'acide hyaluronique. Donc là, c'est un peu, pour moi, je le vois comme ça, mais je visualise ça comme la substitution de l'amortisseur qui se fait plus au niveau du genou. Je trouve ça, moi j'aime bien pour en avoir fait un peu. Et alors après, je sais qu'il y en a au niveau du rachis, ça j'ai jamais l'occasion d'en faire encore dans ma formation. On a un professeur qui est spécialisé là-dedans. J'ai failli y aller, mais malheureusement non. Les PRP aussi. PRP, alors ça, pareil, j'ai pas trop d'expertise à ce sujet. Je sais que c'est discuté dans certains motifs, dans certains motifs. Malheureusement, pour n'en avoir, j'en ai jamais vraiment vu. Je connais le process, mais j'en ai jamais vraiment vu et fait. Donc, en tout cas, en universitaire, c'est pas fréquent. Ça,
Je
je te
pense que
reconnais.
c'est pas pris en charge par la sécurité sociale et donc peut-être c'est que dans des peut-être si quelqu'un écoute et qui pense que je dis une bêtise, mais je crois que c'est le cas et comme il n'y a pas de prise en charge, je pense que ça ne se fait pas au sein du CHU parce que ça sous-entendrait une participation du patient. C'est peut-être la limite aussi de la pratique dans le CHU. Ouais.
Ouais, je oui bah c'est vrai que finalement au CHU on a aussi pas mal de d'actes qui sont remboursés, donc effectivement ouais la PRP, mais la PRP je crois n'est pas remboursée, hein. Ça, je crois que ça se discute encore sur la pertinence dans certains motifs, donc je crois que de par ça c'est pas un acte qui est suffisamment, qui a un service rendu suffisamment important pour être remboursé, il me semble. Et après, bah, il y a pas mal aussi, bah, dans le versant neuro, parce qu'on va parler ortho, mais tout ce qui est aussi toxines botuliques, avec différents types de produits, souvent pour des spasticités ou des douleurs liées à la spasticité, des phénolisations aussi. J'ai eu l'occasion d'en voir quelques-unes. Donc, ouais, c'est quand même assez varié en termes de pratique finalement.